Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1.
Et pour débuter cette émission, nous accueillons Pauline au 39-21. Bonsoir Pauline.
Bonsoir.
Pauline, nous vous avions eu au téléphone avant l'été. Nous étions restés d'ailleurs un long moment. Nous allons d'ailleurs avoir l'occasion aussi de parler à votre avocate, Maître Rongier, qui est aussi en ligne avec nous. Bonsoir Maître.
Bonsoir Monsieur Delacroix.
Parce que vous nous aviez expliqué, Pauline, que... Réexpliquez-moi en fait le résumé, parce que j'ai peur d'oublier des choses, des détails importants. Mais il s'agissait d'un placement abusif de votre fille, placement abusif opéré par l'ASE, après des révélations de violences sexuelles, causées potentiellement et probablement par le père de cet enfant, dont vous êtes séparés maintenant. Mais... Donnez-moi la suite un petit peu pour que celles et ceux qui ne vous ont pas entendu avant l'été comprennent bien.
Bah, vous avez très bien résumé. C'est un placement abusif. Enfin, quand je vous en avais parlé, je ne sais même pas si je réalisais à quel point il était abusif, parce que je venais de vivre tout ça et j'étais encore en état de choc. Donc maintenant, j'ai réussi à sortir un petit peu la tête de l'eau et à y voir plus clair et me rendre compte à quel point il est... réellement abusif. Donc elle est placée depuis le 24 mai. Le motif de placement, ça a été le conflit parental. Mais je l'ai appris au moment du placement.
Le motif, donc,
officiel.
Oui, avec le père de cet enfant qui, je le rappelle, a un gros passé judiciaire, un passé très assez lourd de judiciaire dans la violence dont vous avez été victime, puisque vous avez été menacé par cet homme à plusieurs reprises, menacé de mort. Et vous avez, je ne me souviens plus, pardonnez-moi, mais si il vous avait touché, frappé ou impressionné physiquement.
Il y a eu des violences physiques aussi.
D'accord, ok. Donc...
Donc
vous étiez motivé à quitter cet homme, mais c'était donc un conflit entre lui et vous, ce dont s'est servi la justice, visiblement.
Bah, on était séparés depuis la naissance de ma fille, donc il n'y avait pas, de conflit en soi. Le conflit, il est réellement né à partir du moment où il y a eu la plainte. Avant la plainte, il remettait la faute des révélations de violences sexuelles sur ma fille sur mon ancien compagnon, puisque j'avais refait ma vie avec quelqu'un d'autre. Donc ma fille avait un beau-père, il disait bah, c'est l'autre. Et ensuite, moi j'ai fait appel aux services sociaux qui m'ont demandé de porter plainte, et pas contre X comme j'entendais le faire, mais de désigner les deux suspects, donc le père et le beau-père. Et une fois qu'il y a eu cette plainte, il a complètement changé de comportement, donc là c'est devenu un énorme conflit. Il s'est mis à porter plainte contre moi en faisant des fausses déclarations à la police. Donc il a porté plainte pour disparition inquiétante de mineurs avec pour mobile démence, sachant que je n'avais pas bougé de chez moi, que je lui répondais à ses sollicitations. Moi j'étais recherchée par la police quand je suis arrivée au commissariat et qu'il me dit « vous recherchez en fait », il pensait peut-être même à l'étranger. Et qu'ils sont surpris qu'en fait je n'ai pas bougé de chez moi. Ils me disent, mais dans ce cas-là, pourquoi vous ne donnez pas de signe de vie à monsieur? Il était mort d'inquiétude. Du coup, je leur montre mes échanges avec monsieur. Ah oui, donc en fait, il vous parlait pendant qu'il déposait sa plainte. Donc ça a été classé sans suite, mais ça, le PV de déposition a servi à me faire passer pour, quelqu'un de dangereux.
Oui,
dangereux. Il y avait écrit démence. Donc la personne à l'accueil n'aurait jamais dû prendre ça, il y a eu une erreur de fait, mais ça a servi derrière. Puis derrière, les services sociaux se sont dit inquiets sur mon état de santé psychique. Donc tout le monde s'est inquiété, tout le monde. Lui et les services sociaux, il y a eu énormément d'accusations de potentiels troubles chez moi.
Oui, je crois me souvenir que vous avez fait l'objet en plus de plusieurs accusations par le biais de déposition de la part de membres de sa famille, d'amis, qui ont écrit un tissu de mensonges sur vous. C'est bien ça? J'ai
Oui,
bon
mais
souvenir.
à ce moment-là, je disais seulement, j'ai eu plein de faux témoignages contre moi, mais j'étais tellement affaiblie par tout ce qui se passait que je n'avais pas encore réagi. Mais là, maintenant, je suis très bien accompagnée par Maître Rongier, que j'ai sollicité après le placement en
Oui,
urgence.
oui.
Et là, elle est un soutien et elle réagit procéduralement pour arrêter que j'arrête de me faire broyer par une machine. Donc là, il y a eu une plainte pour 9 des faux témoignages, les 9 sur lesquels j'ai réussi à récolter des éléments de preuve. Et du coup, une plainte pour escroquerie au jugement, puisque les jugements se basent sur tous ces éléments-là.
D'accord. Alors, on va marquer une petite pause si vous le voulez bien. Et puis, on va se retrouver juste après pour évoquer votre attitude ensuite, c'est-à-dire le combat que vous avez décidé de mener, parler de cette injustice, notamment dans les médias. Et on va voir que vous avez été suivi parce que ce combat est plus que légitime. Et c'est ce pourquoi vous êtes là ce soir avec Maître Rongier. Vous ne quittez pas, vous restez avec moi et on se retrouve dans quelques instants. Il est 23h20, vous êtes sur la libre antenne et nous sommes avec Pauline qui mène un combat pour parler de l'injustice dont elle est victime, combat qu'elle mène aussi dans les médias. Vous dites, vous m'avez écrit que tous les professionnels sont unanimes, Pauline, c'est le placement le plus hautement abusif dont ils ont entendu parler. Alors, pourquoi cette réaction unanime et ce combat, vous avez commencé à le mener à peu près depuis combien de temps?
Depuis le jour du placement, j'ai sollicité des associations et j'ai fourni mon dossier et systématiquement, les personnes étaient assez scandalisées par mon dossier. C'est leur réaction. Après moi, je ne baigne pas assez dedans pour avoir leur recul.
Oui.
Ça sera peut-être plutôt aux professionnels eux-mêmes de donner le détail sur en quoi ils trouvent ça particulièrement abusif. Enfin, si, ceci dit, je peux y répondre, hein, parce que moi, quand on m'a annoncé le placement, déjà, on l'a fait par téléphone, un bref appel au travers duquel ils considèrent m'avoir informé du contenu du rapport, alors que c'était très insuffisant, parce que au moment du jugement, j'ai découvert un long rapport qui ne m'a pas été correctement communiqué.
Et qui
Donc,
racontait quoi, ce rapport?
Le rapport déforme complètement mes propos. Tout est transformé à charge contre moi. Donc on parle de conflit parental. On me reproche d'avoir déposé plainte. Quand bien même c'était eux qui me disaient de déposer plainte, mais comme après la plainte pour les violences sexuelles sur ma fille, le père de ma fille s'est mis à me harceler et à me traquer, à vouloir savoir où je vivais, à se rendre à la crèche pour exiger à avoir mon adresse. Et à expliquer qu'ils faisaient des rondes pour me trouver. Enfin, bon, là, il y avait un climat assez inquiétant. Donc, j'ai déposé plainte pour les violences conjugales à ce moment-là et pour le harcèlement. Et du coup, dans le rapport, il y a écrit que je suis dans le conflit parce que je dépose plainte.
D'accord.
Par
Alors,
exemple.
aujourd'hui, vous en êtes où, Pauline?
Aujourd'hui, j'ai une audience dans une semaine, le 23 septembre,
Oui.
pour l'appel du placement. J'ai déjà eu une audience au mois de juillet pour lever le placement en attente de l'appel.
Lever le placement, donc ça se traduit comment ça dans les faits?
On demandait à ce que ma fille puisse retourner auprès de sa famille en attente de l'audience d'appel. Mais ils ont considéré qu'il n'avait pas été démontré que le placement compromettait le développement psychoaffectif de l'enfant. Donc c'est ce qui a été retenu pour maintenir le placement.
D'accord. Et
Les services sociaux disent qu'elle va très très bien, que tout va bien.
Oui. Et vous l'avez vue dernièrement, votre fille?
Alors à la base, je la voyais 1 heure toutes les 2 semaines. Maintenant, ça a évolué. La juge a accordé que je puisse la voir 2 heures par semaine. Donc ça va mieux depuis que je la vois plus. Mais je vois que son état se dégradait vraiment à vitesse grand V, hein. Elle en avait même de l'herpès sur la bouche. Qui se propageait même à l'intérieur de la bouche, sans suivi médical, sans suivi psychologique.
Elle est toute petite en plus, hein, elle a 2 ans et demi.
Oui, elle est, oui,
Ouais.
ouais. Elle vient d'avoir 3 ans. Elle vient de faire sa toute première rentrée scolaire sans sa maman. Donc ce sont des traumatismes qui lui resteront. Enfin, je...
Qui lui resteront et qui vous resteront aussi. Oui. Où on est pour le père, en fait, qui, à un moment, avait le droit de l'avoir avec cette plainte pour attouchement sexuel ou agression sexuelle. Lui, il a le droit de l'avoir aujourd'hui ?
Ah, il a les mêmes droits que moi. Et je suis allée consulter le rapport social, les rapports qui ont été faits durant cet été auprès du juge des enfants la semaine dernière. Et j'ai découvert dans leur rapport que monsieur était, était absous de tout et qu'il demandait même un élargissement de droits.
Maître Rongier, lorsqu'on écoute Pauline, on a longuement échangé avant l'été. On a le sentiment ici à la Libre Antenne que lorsqu'on est une femme seule et que finalement on n'est pas dans la ville, dans sa ville d'origine, hein, qu'un père, le père de la petite, lui est chez lui là-bas, a des connaissances malgré son casier judiciaire long comme le bras, visiblement a pas mal d'accointances avec des politiques, avec des policiers, puisque visiblement il connaît tout ce petit monde-là, puisque c'est une ville de province. Soit elle est grande, cette ville de province, mais on sait que finalement c'est tout petit. Hein. Les villes comme Lyon, comme Orléans, comme Rouen, comme, on sait que finalement tout le monde se connaît. Quel regard vous portez sur cette affaire, vous, Maître Rongier ?
Alors, je crois qu'effectivement, on est face en fait à un violent conjugal qui, par définition, hein, comme c'est souvent une caractéristique qui revient, est assez fort en manipulation et qui finalement arrive à manipuler autour de lui, hein, comme vous l'expliquez dans cette petite ville d'Orléans, qui arrive à manipuler alors son entourage et puis des intervenants sociaux et puis voilà, de fil en aiguille en fait il réussit à détourner des institutions, des procédures qui sont censées protéger les victimes de violences conjugales, qui sont censées protéger les enfants victimes de ces violences et qui finalement se retrouvent détournés de cet objectif et puis viennent entériner des situations de violence de manière extrêmement grave, puisque là c'est une décision de placement qui est horrifiante. On est face à quelque chose qui dépasse l'entendement. C'est une petite fille qui a dénoncé des faits d'inceste qui se retrouve coupée de sa maman du jour au lendemain. Alors, ce qu'on attendait à ce moment-là des institutions, c'était qu'on entende sa parole, en fait, qu'on l'écoute, qu'on la place pas et en l'obligeant à avoir des visites avec son papa qu'elle a dénoncé. Enfin, ça paraît complètement aberrant.
Est-ce que la parole d'une petite de 2 ans et demi en fait a du poids en fait légalement?
Alors bien sûr. Oui. Qu'elle a du poids. Après, c'est vrai que Outreau est passé par là, a fait beaucoup de mal. Mais oui. Là, on sait aujourd'hui que non, la parole d'un enfant de 2 ans et demi, 3 ans, a du poids.
Visiblement, elle n'a pas pesé. Ça n'a pas pesé grand.
Pourtant, ce qui est important, c'est que la parole de Louise, en fait, elle s'est déployée dans un cadre qui n'a rien à voir avec le domicile maternel. C'est à la crèche, là où elle est en confiance avec des assistantes maternelles qui s'occupent d'elle depuis plus d'un an. C'est à ce moment-là, en fait, qu'elle commence à manifester ses angoisses. Et c'est les assistantes maternelles qui se saisissent du problème, qui contactent la maman qui lui disent « Là, on a un problème avec Louise. Elle ne veut plus être changée. Elle tremble, elle crie, elle dit que quelqu'un lui a fait mal. C'est pas quelqu'un de la crèche, c'est pas vous. Faut lui parler. »
Oui, c'est ce qui est fou dans cette histoire. Parce que ça part de là. Finalement, ce qui est fou, encore plus fou, je dirais, c'est que la maman a une attitude, Pauline, hyper responsable à ce moment-là. Elle va chercher et elle va porter plainte pour au moins connaître la vérité. Et finalement, on s'aperçoit que tout lui est retombé pratiquement dessus, parce qu'elle a été, traitée comme une moins que rien. Dans une semaine, il va y avoir une audience. Qu'est-ce que vous allez aller chercher dans cette audience? Qu'est-ce que vous allez revendiquer, mettre au nom de votre cliente?
Oui, alors ce qu'on cherche évidemment, c'est de récupérer Louise, et surtout à essayer de faire en sorte que les magistrats se penchent là sur ce dossier, sur cette affaire, avec de la hauteur, qui prennent un petit peu de distance en fait, hein, avec tous les témoignages qui sont fournis par le violent conjugal. Hein. Donc c'est vrai que donc Pauline expliquait qu'on a, voilà, on a fait des plaintes pour faux témoignages, des plaintes pour escroquerie au jugement, parce que voilà, monsieur, il arrive avec des éléments en pagaille, et puis les juges, eux, les pauvres aussi, hein, c'est les moyens de la justice qui font défaut, ils n'ont pas forcément le temps, en fait, hein, de se plonger avec l'énergie qu'ils souhaiteraient, hein, dans des dossiers comme celui-là.
Ce à quoi vous faites allusion, ce sont ces fameuses attestations sur l'honneur produites par les amis, voilà, la famille, en tout cas les proches.
Des attestations, voilà, sur lesquelles, ouais, oui, le juge se repose, les intervenants sociaux se reposent, puis on sait qu'après, les juges se repose beaucoup sur les rapports des intervenants sociaux. Donc finalement, en fait, là, on voudrait que la juridiction, que la cour comprenne que la situation est tellement grave là, qu'il faut un petit peu prendre de la distance par rapport à ce que disent les intervenants sociaux, l'ASE, sachant que eux, leur préconisation, en fait, part de rapports qui sont effectués par des gens pas particulièrement formés, hein, à toute cette problématique, surtout celle des violents conjugaux, et puis qu'on puisse être manipulé par ce profil, ouais, d'auteur.
Moi, j'ai un profil. J'ai ouais, le sentiment, maître, que dans cette histoire, et Pauline, je pense que vous serez d'accord avec moi, mais j'ai l'impression que Pauline a été un peu prise en grippe. Du fait que c'était une jeune femme qui se défendait et qui s'exprimait extrêmement bien, qui avait l'intelligence, ouais, pour, l'éducation pour, et on a l'impression qu'on lui a mis un gros coup sur la tête le jour où finalement elle s'est retrouvée toute seule dans ce tribunal et qu'elle a compris qu'elle ne reverrait pas sa fille. C'est possible, ça? Vous avez été témoin de ça souvent? Est-ce que les services sociaux, parfois, bah, comme dans la vie, hein, finalement, vont sympathiser ou vont avoir un petit coup de cœur pour l'un ou l'autre des parents et finalement allumer celui qu'ils aiment moins.
Oui, alors c'est vrai que c'est toujours la coupable, hein, entre guillemets, idéale, hein, la maman seule. Hein, on se rend compte de ça aujourd'hui dans plein de situations, hein, et dans le cas de Pauline, en fait, c'est vrai qu'on se demande, en fait, qu'est-ce qu'il fallait qu'elle fasse là, pour être une bonne mère. Alors, si elle porte plainte, on lui reproche. Si elle porte pas plainte, on lui reproche. Si elle porte plainte en dénonçant le papa dénoncé par sa fille, on lui dit que c'est elle qui lui aurait mis ça dans la tête. Si jamais elle dénonce quelqu'un d'autre, on dit que, enfin, en fait, c'est comme si elle ne pouvait rien faire. Voilà, cette maman, effectivement, célibataire dans une ville qui n'est pas la sienne et où son conjoint, lui, est parfaitement intégré et puis connaît tout le monde. Mais en fait, c'est vrai, elle se retrouve, vous avez raison, un peu prise en grippe. Et je pense aussi, effectivement, qu'elle n'a pas le profil de la victime traditionnelle qu'on attend. C'est vrai qu'elle est, elle est parfaitement stable. Elle a beau avoir vécu des choses terribles, avoir sa fille aujourd'hui qui est placée. Alors, elle est dans la souffrance, évidemment, mais elle tient le coup, en fait. Oui. Elle tient le coup, elle s'exprime bien, elle ne se laisse pas faire, elle ne les laisse pas martyriser son enfant, parce que parfois, c'est vrai qu'il y a quand même un certain retard, hein, dans les pratiques éducatives, et elle intervient, et voilà, elle ne se laisse pas mettre en situation de faiblesse, la situation dans laquelle on aimerait la mettre. Et puis, je constate aussi, effectivement, que depuis que les médias s'intéressent à cette affaire, elle subit des brimades. Alors on lui dit, ah bah non, maintenant vous aurez plus droit d'avoir des appels avec votre fille. On lui dit pas clairement que c'est lié au fait que ça sorte dans la presse, hein, mais ça coïncide. Voilà, donc c'est un petit peu des petites sanctions comme ça qui viennent, et on a l'impression que c'est des petits abus de pouvoir.
C'est une tendance générale. Je peux vous dire que tous les parents que j'ai dans ces affaires de placement, se font taper sur la tête dès qu'ils revendiquent leurs droits, dès qu'ils ne sont pas d'accord. Il y a une sorte de toute-puissance que l'on évoque souvent ici sur cette antenne, des services sociaux qui ne permettent pas le dialogue, ne permettent pas l'échange. En fait, c'est leur décision est reine et on a à s'y plier, point barre. La semaine prochaine, donc, il va y avoir cette audience. Je crois, Pauline, que vous êtes très suivie pour cette audience. Qu'est-ce qui va se passer avant cette audience?
Vous voulez dire juste avant l'audience?
Oui, vous m'avez parlé hors antenne de gens qui vous appuyaient aujourd'hui. Vous êtes très suivie.
Oui, les associations qui suivent mon dossier, bah, depuis le début du placement, vont se réunir pour m'apporter leur soutien.
Bah oui, parce que c'est bien que celles et ceux qui écoutent Europe 1 ce soir sachent quelles sont ces associations, parce que ça crédibilise beaucoup votre légitimité, si vous voulez.
Il y a Innocence en danger, il y a le Comité international pour la dignité de l'enfant, il y a Protéger l'enfant et l'Association des familles victimes de féminicide. Ça, ce sont les quatre associations qui ont vraiment planché sur mon dossier, qui m'ont accompagnée dans toutes mes démarches depuis le placement.
D'accord. Vous êtes confiante ?
Alors, je l'étais avant le juge des enfants. Je me disais qu'on allait enfin être protégée et j'étais sereine, j'allais à l'audience sereine et je ne m'attendais pas du tout à ça. Donc, je ne peux plus être sereine. Oui. Puisque je peux me retrouver dans une situation complètement ubuesque. Donc,
qui pourrait se traduire par quoi, par exemple ? Ça veut dire que ce placement pourrait rester tel qu'il est,
ça là ça pourrait rester, ça pourrait même être pire. Hein, elle pourrait être placée chez son père et que moi, je perde tout droit sur elle. Il peut y avoir même d'autres situations.
Votre avocate, Maître Rongier, vous allez pouvoir parler de ces fausses dépositions parce qu'elles ont pesé quand même lourd dans tout ça. On sait que les juges aujourd'hui, malheureusement, n'ont pas le temps de vérifier la véracité de ces témoignages, hein, ces fameuses attestations sur l'honneur, où pourtant il est écrit que si on ment, on est passible de plus d'un an de prison. Mais ça, visiblement, ça ne fait peur à personne, puisque dans chaque divorce, pratiquement, on a moult attestations qui racontent tout et n'importe quoi. Dans cette histoire, elles ont pesé lourd, ces attestations.
Alors, oui, elles ont dû peser lourd. Mais de manière pas si visible. Donc on va en parler parce que c'est forcément, ça a donné une coloration et puis même si ça vient de quelqu'un qui a un lourd passé carcéral, bon bah ça a eu l'air d'avoir un peu de poids. Mais je vais surtout aussi me centrer sur le fait que en fait les deux critères normalement pour placer un enfant, faut qu'il y ait soit un danger, soit des conditions de développement compromises, et les rapports, en fait, ne démontrent aucun de ces deux critères. Il n'y a rien. C'est-à-dire que ça repose sur du vide, quand même, cette décision de placement. On ne démontre pas un danger, on ne démontre pas que Louise connaît un développement compromis. Au contraire, c'est une petite fille, au moment du placement en tout cas, c'est une petite fille parfaitement heureuse, parfaitement développée, très autonome. Les intervenantes de la crèche qui la connaissent depuis un an disent qu'elle a une super relation avec sa mère, avec autrui, qu'elle est autonome, qu'elle est très très bien. Donc en fait, c'est vrai que il y a d'une part le fait que la décision de placement, elle ne s'appuie sur rien, il n'y a pas de danger qui est démontré.
C'est ce qui est
rien.
Fou, c'est ce qui est fou dans cette histoire.
C'est ce qui est fou, voilà, c'est ça qui est fou. C'est qu'il suffit de lire la décision pour comprendre que c'est un placement abusif. Après, on se dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui s'est passé ? Et on regarde tout le dossier, et là, on découvre le profil de monsieur avec, effectivement, un lourd passé quand même délinquant, c'est pas non plus rien. Et puis, toutes ces manipulations sordides autour de tout son entourage qui va dénoncer des faits. Et puis, si on creuse un tout petit peu, on se rend compte que c'est n'importe quoi, que alors telle personne pourra dire que madame aurait fait, se serait comportée comme ça, puis on se rend compte qu'à cette période-là, en fait, elle n'est pas là. Enfin, voilà, tout, en fait, rien ne tient debout. Donc, c'est pour ça, pour essayer de détruire un petit peu cet édifice de mensonges qu'il a construit. Ouais.
Hein, il va falloir
a déposé ces plaintes.
Il va falloir vous armer de courage, maître, parce que, en plus de ça, ce qui nous paraît incompréhensible ici, c'est que ça fait des mois que Pauline fait l'objet de menaces répétées, de menaces de mort, qu'elle a dû déménager plusieurs fois. Yvette, au 3921, nous demande, parce que Yvette suit cette affaire avec nous, sur Europe 1, c'est une auditrice, est-ce que Pauline est en sécurité aujourd'hui ? Est-ce qu'elle est protégée ? Est-ce qu'on a compris qu'en face, il y avait un père qui était capable de mettre à exécution ces menaces ?
Alors, juste une petite précision, il n'a pas réitéré de menaces là cette année.
D'accord.
Mais il avait un ton menaçant, disons, et il me traquait, il voulait savoir où j'étais, et il faisait en sorte que je me retrouve à la rue. Il a appelé tout mon entourage, il a appelé mon garant, il lui a dit « j'ai une procédure devant le juge aux affaires familiales, il ne faut pas que mon ex soit logé ». Il faisait en sorte de me nuire complètement.
Ça s'appelle du harcèlement, ça, Pauline.
Oui, bah, j'ai reçu environ 40 SMS où il exigeait avoir mon adresse. Et bon, utilisant tous les prétextes, hein, j'ai besoin de récupérer mon Tupperware. Maintenant, bon. Tout de suite.
En tout cas, on sera ici sur Europe 1 très attentif à ce qui va se passer. C'est la semaine prochaine, c'est quand ?
Oui, c'est vendredi 23.
C'est le vendredi 23. Donc, vous ne manquerez pas de nous rappeler le lundi suivant pour nous raconter comment tout ça s'est passé, puisque ben, vous savez, on est très attentif à votre affaire, à votre histoire. On est très attentif, bien évidemment, à ce qui va advenir de votre petite fille, parce que c'est ce qui est le plus important dans tout ça. On vous souhaite bon courage, Pauline. Et puis, vous semblez très bien accompagnée avec Maître Rongier. Donc, voilà, on espère de tout cœur que ça va bien se passer. Je crois que vous avez mis en ligne une tribune, non ?
Oui.
Où est-ce qu'on peut la trouver, cette tribune ?
Alors, elle n'est pas encore parue. Pour le moment, les associations qui me suivent la diffusent auprès du réseau de professionnels qui souhaiteraient prendre part. Mais ils l'ont mise sous forme de pétition en attendant pour qu'elle puisse être accessible aux citoyens qui souhaiteraient soutenir la cause.
D'accord.
C'est pas rédigé à proprement parler pour moi, en fait. Ça a rédigé pour dénoncer
le placement abusif.
Cette systémique.
Le système.
Pas forcément le placement abusif, mais le système qui a tendance à se retourner à charge contre les victimes de violences conjugales.
Dernière question pour vous, Maître Rongier. Oui. Je ne sais pas si vous avez beaucoup d'expérience encore, car je ne sais pas depuis combien de temps vous exercez, mais quel regard...
J'ai 10 ans de barreau.
Vous avez 10 ans de barreau. Donc, quel regard vous portez sur justement ce qu'évoque Pauline, sur ce système ? Est-ce qu'il ne vous paraît pas archaïque un peu ? J'entends par là que souvent, le destin d'un enfant ou de plusieurs enfants, hein, d'une fratrie, et donc le destin de parents aussi, puisque tout le monde est touché dans tout ça. Souvent, ça repose sur la vie d'une personne. Il n'y a pas, de côté collégial dans toutes ces histoires. Est-ce que c'est quelque chose qui vous choque ?
Alors, oui, ça me choque. Moi, j'interviens quasi exclusivement, même sur les violences conjugales, violences intrafamiliales, violences faites aux femmes. Et c'est vrai que c'est vraiment un domaine où on se rend compte qu'il y a des principes effectivement archaïques, ancrés, qui demeurent, qui empêchent d'avancer. C'est des matières où on voit beaucoup de choses qui dysfonctionnent, qui ne vont pas. Et en fait, on se demande pourquoi on laisse reposer des décisions aussi graves sur une personne, sur un juge des enfants, qui va prendre une décision sur une situation complexe. C'est toujours très complexe, hein, des schémas de violence conjugale, des dénonciations d'inceste, et qui va prendre une décision aussi grave sur la vie d'un enfant contre laquelle il y aura un recours qui donnera lieu à une audience 4 mois plus tard. Enfin, ça paraît délirant. À côté de, par exemple, la façon dont sont organisées les choses concernant la détention provisoire, où les détenus, ils ont des droits. Je ne vais pas comparer le cas d'un enfant placé et puis d'un détenu, mais en fait presque, quoi.
Si, parce que c'est aussi grave. La détention, c'est un placement.
Voilà, un détenu provisoire, il peut faire des demandes de mise en liberté tous les jours. Enfin, il a beaucoup de droits. Et là, c'est vrai que on se sent démuni, en fait. On se sent impuissant. Il y a eu une juge des enfants qui a pris une décision sur la base des rapports très confus des services sociaux.
Mais souvent, c'est ce que je vous dis, c'est que vous dites ces services sociaux. Mais ces services sociaux sont souvent représentés par la voix d'une éducatrice ou d'un éducateur en charge de l'enfant.
Ouais,
c'est
fait.
Ça que je dis. Et vous avez raison de comparer le placement d'un détenu où, finalement, il y a un procès où on va plaider le procureur, le juge, les témoins. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a beaucoup plus de collégialité. Je ne sais pas si ça dit collégialité, mais si, je crois.
Collégialité, ou alors il y a un premier juge qui décide de saisir un autre juge pour le placer en détention. Il y a un procureur qui se prononce.
Exactement.
Il y a effectivement une collégialité, il y a plusieurs échelons. Et puis là, c'est brutal, quoi. C'est une audience, une juge, et sur surtout, il n'y a pas eu de mesures intermédiaires, il n'y a pas eu d'assistance éducative. Au départ, Pauline, quand elle s'est jugée d'enfant, c'est pour être aidée face à la situation très inquiétante dans laquelle est sa fille, et elle demande une assistance éducative. Elle vient chercher l'aide du juge des enfants.
Bien sûr, bien sûr.
Et puis, en une audience, eh bien,
ça bascule.
Une décision radicale. Oui. Ça bascule complètement. Voilà, au péril de cette petite fille qui est aujourd'hui sans sa maman, sans sa maison, sans ses jouets, enfin, qui a été ballottée de famille d'accueil en famille d'accueil. Enfin, c'est terrible, en fait.
Encore une fois, je le rappelle, les bonnes oreilles entendantes et concernées, ici, nous serons très attentifs à ce qui se passera lors de cette audience. Et voilà, j'espère que vous pourrez nous rappeler, Pauline, pour nous tenir au courant. En tout cas, on vous souhaite bon courage, Pauline. Et puis, maître, soyez bonne.
Hein. merci beaucoup, Olivier Delacroix, pour votre intérêt.
On vous embrasse et puis on vous souhaite plein de courage. Bonsoir.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Merci beaucoup. Bonsoir.